Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 9.
En tant que société, nous investissons des milliards en santé chaque année. Ça doit être important.
Comme individu, chaque instant de notre vie est investi à rester en santé, que ce soit inconsciemment, par la respiration, ou activement, comme ceux qui courent dans des marathons.
Dans ce 9e épisode, Aube s'est penché sur la santé.
La nourriture qu'on mange, les efforts nécessaires pour surmonter la maladie, le système de santé publique.
Et les médecines alternatives sont quelques sujets abordés dans cette émission.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé?
Santé! Santé. Montréal, 24 juillet 2015. Chère grand-maman, merci pour la belle lettre que tu m'as envoyée pour le jour de l'an. Je m'excuse de ne pas y avoir répondu plus tôt. Dans ta lettre, tu me souhaites une bonne année, du bonheur et de la santé, puis tu me demandes comment je vais. Ça a l'air drôle à dire, mais je ne sais pas comment répondre à ta question. Je ne sais pas si je suis en santé. Bon, d'accord, je fume, donc moins un point. Mais je fais du vélo, alors peut-être plus un. Je vais pas vraiment au gym, mais je suis encore capable de faire une quinzaine de push-ups sans mourir. Je cours moins vite que je courais, mais je suis encore capable de rattraper la 29 sur Rachel quand elle me passe en face. Dans mes cours en business management, ils disent qu'on peut améliorer tout ce qu'on mesure. Mais quand tu commences à faire des moyennes, puis des normales, puis des médianes, puis à mesurer ton score, tu deviens rapidement obsédé. Si t'avais déjà joué à Candy Crush, tu comprendrais ce que je veux dire. Bref, je sais pas quoi te répondre. Parce que je sais pas si mon poids est normal, je sais pas si je mange assez de kale, je sais pas si mon ventre est trop gros ou l'espace entre mes cuisses trop petit. Une petite recherche sur Internet m'a permis d'apprendre que j'étais à mon poids santé. Je suppose que c'est bon signe, mais je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Je peux mesurer mon rythme cardiaque, mes cycles de sommeil, le nombre de calories que je mange. Aujourd'hui, il y a un bouton pour tout ça sur mon cerf. Mais c'est un peu comme si ma santé était devenue une compétition. Est-ce que le joueur de football à côté de moi dans l'autobus est plus en santé que moi? Est-ce que Lance Armstrong est plus en santé que moi? Est-ce que mon refus de participer à une société de performance et de chiffres fait de moi l'idiot du village? Grand-maman, est-ce que tu penses que je suis en bonne santé mentale? En tout cas, ça ne me semble pas la bonne approche que d'évaluer ma santé avec une série d'indicateurs de performance objectivement mesurables. Instinctivement, je dirais que c'est pas mon taux de globules rouges ou mon IMC qui t'intéresse. Je sais c'est quoi être malade. Comme tout le monde qui est en vie, j'ai vu la maladie. J'ai vu la malaria, la maladie de Crohn, les commotions cérébrales, la toxicomanie, la cyberdépendance, l'anorexie, l'obésité, le cancer, la dépression. Je me rappelle quand grand-papa était à l'hôpital, quand maman s'est coupé le doigt, quand papa a fait son burn-out, quand Marie a attrapé un drôle de virus en Thaïlande. Ça arrivait à une personne, mais ça touchait toujours plein d'autres mondes. La santé, c'est une histoire de groupe. Ça affecte les proches, la famille, les amis. Je me rappelle aussi quand tu me parlais de ton amie, Hélène, je pense, qui était en CHSLD. Tu me disais que tu trouvais ça triste parce qu'elle avait pas beaucoup de visites. C'est drôle parce que je la connais pas, mais ça me touche moi aussi de la savoir seule. Est-ce qu'elle va bien, ton amie Hélène? Ça me fait penser que la santé, c'est pas juste une affaire individuelle, mais aussi une affaire de société. C'est sûr, arrêter de fumer, boire du kombucha, me coucher tôt, faire du yoga, avoir un médecin de famille, y a personne qui va le faire à ma place. Mais la société dans laquelle on vit, grand-maman, elle te rend pas malade des fois? Ta question, ça devrait peut-être être « Est-ce que tu vis dans une société qui va bien? » En tout cas, elle est compliquée ta question, grand-maman. Je pense pas que je vais être capable d'y répondre dans une lettre. Le 31 décembre prochain, je vais essayer d'être là dans le sol de l'église du village. Comme ça, je vais pouvoir souhaiter la bonne année à tout le monde, du bonheur puis de la santé. Si on a tout ça, ça devrait aller. Je t'embrasse, Guillaume. PS, m'as-tu gardé un morceau de tarte au sucre?
Aujourd'hui, on va parler donc dans la thématique de la santé d'un projet qui est très intéressant étant donné qu'il prend une autre optique de la position du patient. Je vais parler du projet Patient Partenaire et aujourd'hui il y a Alexandre Berquez qui est avec nous pour nous parler de ce projet. Alexandre est conseiller à la direction collaboration et partenariat patient de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Petite remise en contexte, c'est une direction qui est co-dirigée par un médecin et un patient. Bonjour Alexandre, de quoi il retourne dans ce projet Patient Partenaire ?
Donc le projet Patient Partenaire, il est né d'un constat partagé entre les patients, leurs proches et les professionnels de santé du fait de l'inadéquation entre les besoins populationnels en matière de santé et la façon, le modèle de soins, les relations de soins qui existent dans le système de santé. Donc le but c'était de dire, il y a eu une évolution du portrait général des besoins populationnels en matière de santé, il y a une chronicisation des maladies, on est moins dans les maladies aiguës. Est-ce qu'aujourd'hui le milieu de la santé à former les professionnels de la santé et un système qui est conçu de manière à gérer ces nouveaux besoins en matière de santé au point de vue des patients. Donc le constat, c'était qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc l'objectif, c'était de dire comment on va transformer la formation des médecins et des professionnels de la santé en général de demain pour qu'ils soient capables de gérer cette évolution des besoins populationnels en matière de santé et à l'inverse, comment on forme les patients pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'interagir avec le milieu de la santé pour prendre soin d'eux à long terme.
Et au-delà de ça, de ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que le patient devient un allié du personnel soignant parce qu'il est le premier finalement concerné à soigner sa maladie et finalement il peut apporter des données au médecin ou à l'infirmière que lui, en étant professionnel, n'aura pas forcément parce qu'il n'est pas concerné par la maladie. Est-ce que j'ai bien compris l'idée ?
Ouais, t'as tout à fait compris l'idée. Il y a deux postulats de base. Le premier, c'est de dire le patient n'est pas juste un bénéficiaire, un client du système de santé, mais c'est avant tout un acteur. Mmh. Donc c'est un acteur de soins. Un acteur même de premier plan, c'est peut-être certainement la personne qui passe le plus de temps par année à prendre soin de lui. Et là-dedans, il y a aussi les proches. C'est-à-dire qu'il y a des proches qui vont vivre avec des patients qui ont ces maladies chroniques-là et qui donc vont faire également l'expérience à la fois du système de santé, mais aussi de la vie avec la maladie. Donc le premier postulat, c'est de dire le patient n'est pas un client, mais aussi un acteur de soins à part entière, donc il fait partie de l'équipe. Le deuxième, c'est de dire les patients, ils ont ce qu'on appelle nous le savoir expérientiel de la vie avec la maladie. Une bonne décision médicale, elle ne peut être de qualité que si on mobilise à la fois tout le savoir scientifique biomédical qui est transmis aux professionnels de la santé, mais aussi en mobilisant les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie. Parce que t'as beau avoir le traitement le plus efficace, si tu prends pas en compte que la personne elle travaille la nuit ou qu'elle aime pas les pilules carrées parce qu'elle arrive pas à les avaler, etc., que tu prends pas ce genre de détails en compte, et ben on diminue la possibilité d'une observance au traitement.
Donc ce qui fait que d'un suivi par le patient de son traitement.
Bah nous on dit ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir le traitement le plus efficient scientifiquement parlant, biomédicalement parlant et du point de vue technique, mais aussi un traitement qui prend en compte les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie du patient et son contexte de vie et surtout son projet de vie.
Effectivement, c'est une autre manière d'envisager la maladie et puis on n'est pas juste une personne qui donne un conseil et l'autre qui le suit. Finalement, c'est plutôt un partenariat
C'est une co-décision. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on forme les équipes dans le milieu de la santé à inviter les patients lors des rencontres et de prendre une décision ensemble. C'est pas l'équipe qui consulte le patient en disant c'est correct de faire comme ça. C'est de dire on prend ensemble la décision, donc on fait une co-décision du plan de traitement.
De ce que j'ai pu voir aussi au niveau de ce projet-là, c'est que c'est pas juste à Montréal. Comment ça s'implante en fait, ces projets-là ?
Effectivement, il y a des enjeux culturels, politiques, stratégiques, etc. dans chacun des pays. Aujourd'hui, ce qu'on fait au Québec, c'est qu'on s'est déployé à l'intérieur du réseau de la santé au Québec, donc dans les établissements de santé. Aux États-Unis, on fait beaucoup des conférences, on est beaucoup consultés parce qu'ils ont peu d'initiatives de partenariat avec le patient. Eux, ils ont beaucoup ce qu'on appelle des approches de consultation avec le patient. C'est-à-dire qu'on va faire un sondage, on va faire des focus group, on va les consulter dans un grand forum citoyen. Mais on reste encore dans le mode consultation, c'est-à-dire que la richesse de l'information collectée est toujours traitée à la fin par les professionnels de la santé ou par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on perd la richesse expérientielle qui a été extraite parce qu'on la traite dans un référentiel qui est biomédical, alors qu'on a été le chercher dans un référentiel expérientiel. Donc on perd cette richesse-là. Ce qu'on peut voir en Europe, ça se passe davantage dans l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire on essaye de créer des programmes d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on aide les patients, on développe leurs compétences à prendre soin d'eux. Donc ça peut être pour quelqu'un qui a un diabète de type 1, ça doit être améliorer sa capacité à se faire des injections d'insuline. Donc on est directement dans les soins. Nous, ce qu'on a pris comme postulat au Québec et au Canada, c'est de d'abord travailler l'environnement de soins qui va permettre, c'est-à-dire former les professionnels, changer la manière dont sont donnés les soins, etc., pour permettre aux patients de devenir un patient partenaire de ses propres soins. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est oui, il faut travailler au niveau des soins, ce qu'on fait avec des programmes d'éducation thérapeutique, mais parallèlement, il faut travailler à changer le milieu, changer les mentalités. Il y a 70% d'inobservance au traitement au Québec, environ.
Donc c'est-à-dire des personnes qui ne suivent pas leur traitement.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a beau faire le meilleur diagnostic, faire un IRM qui coûte extrêmement cher, avoir investi énormément de ressources humaines et techniques pour prendre la bonne décision, dans 7 cas sur 10, le traitement qui va sortir de cette bonne décision médicale ne sera pas pris. Si on ne travaille pas la dimension expérientielle et relationnelle avec le patient dans la relation de soins, ben en fait, tous ces efforts-là, ils ont très peu d'impact dans la suite. Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment intéressant, finalement, parce que tu as une équipe multidisciplinaire, on sort un peu de cette hiérarchie, on arrive à prendre le patient en compte comme étant un acteur lui-même de sa propre guérison plutôt qu'un assisté, finalement, pauvre victime. C'est un projet très, très intéressant. C'est quoi l'impact actuellement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une réalisation pratique et concrète ou...
C'est parti depuis à peu près fin 2010, mais aujourd'hui, déjà 4 ans après, on a plus de 400 patients qui ont été recrutés, formés, qui ont été impliqués à la fois dans l'enseignement des futurs professionnels de la santé, à la fois dans les soins et services de santé, c'est-à-dire dans le réseau de la santé au Québec, au sein des C3S, des CHSLD, etc., et dans la recherche en santé. Je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, les cours d'éthique clinique à la faculté de médecine, donc avec les futurs médecins, sont donnés en duo d'enseignement avec un médecin et un patient. Il faut intégrer à la fois des proches et des patients qui ont vécu ces expériences-là pour amener une dimension au-delà de biomédicale, mais davantage expérientielle dans ce genre de discussion.
Et même presque humaine, finalement, pour qu'on puisse donner à des étudiants en médecine, non pas juste une pratique de l'anatomie, mais aussi un côté humain, et puis à apprendre à écouter l'autre aussi.
Exactement. Mais aussi, juste quand on parle d'écouter, c'est pas nécessairement des patients qui viennent témoigner. Le but, c'est pas de faire pleurer les étudiants en médecine en montrant, là, c'est triste de vivre avec la maladie, mais c'est le cours est carrément co-construit avec les patients. Si on donne un cours sur la douleur chronique, on va prendre quelqu'un qui a une fibromyalgie, qui a donc une sensation de douleur assez fréquente dans la journée, entre 20 et plus de 20 heures par jour pour certains cas, et qui va co-construire le cours et le donner aux étudiants en ayant en tête cette dimension de l'impact sur la vie, l'impact sur le projet de vie, etc. Juste pour terminer, je voulais dire qu'une des choses qui est le plus marquante dans ce projet, c'est que de manière générale, les patients nous disent souvent, nous confient souvent qu'au moment où on leur a donné le diagnostic de la vie avec la maladie, et que depuis ils se sont sentis pris en charge par le système de la santé, ils ont l'impression d'avoir perdu une certaine utilité sociale. Mmh. Et en fait, quand ils viennent faire les projets avec nous, souvent ce qu'ils nous disent, c'est « Merci, enfin je retrouve une utilité sociale, j'ai l'impression de redonner à la communauté tout ce qu'elle m'a donné comme aide, comme manière de prendre soin de moi. » Et c'est une manière de redonner, et surtout de redonner à ces professionnels, parce que j'en ai rencontré des fantastiques, et aujourd'hui j'aimerais contribuer à former des professionnels de santé qui vont être capables d'être des partenaires de soins.
Super, bah écoute Alexandre, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de ce fameux projet patient partenaire, puis j'encourage vraiment les gens à aller jeter un œil parce qu'on n'en entend pas forcément parler, mais c'est très très intéressant.
Pour la taille fine, bénédictine, avec du bacon, puis une bonne platée de bine. Toutes ces choses qui sont grasses, moi je trouve pas ça dégueulasse. Il faudrait que je m'en passe avant que ma chaise ne se casse. Des fruits? Comment ça des fruits? On mange pas ça des fruits. Nous autres, on mange la bière. Il m'en reste encore d'hier dans mon char en arrière. Aïe, va dans moi. Pipi, 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 pipi,
pipi, j'aurais presque envie de le surnommer guérisseur social. Des mots qui résonnent dans mes oreilles comme un message qu'on devrait tous entendre régulièrement pour qu'individuellement et collectivement, on arrive à transformer la souffrance en amour. Patch Adams est un grand bonhomme. Imaginez-le avec de longs cheveux bleus, une boucle d'oreille, habillé en clown. À le croiser dans la rue, on pourrait pas croire qu'il est médecin. En fait, Patch Adams se présente comme médecin et clown, en prenant le soin de préciser que ces deux professions ont pris autant de temps à apprendre l'une que l'autre. Après avoir complété ses études en médecine, où, précise-t-il, le mot « compassion » n'a jamais été prononcé, il décide de mettre sur pied l'Institut Gesundheit en 1972. Ce centre s'est donné comme mission d'utiliser la médecine comme véhicule de changement social et de créer un modèle de soins pour tous les types de problèmes, que ce soit la dépression, la tristesse, l'alcoolisme ou encore le simple rhume. Le bon mot pour décrire ce centre serait en fait « communauté », parce qu'en plus d'offrir des soins médicaux de base, l'Institut utilise les arts, la musique et le jardinage pour guérir les gens. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'acceptent aucun argent en échange de leurs services. Seuls les dons sont acceptés. Ils n'ont jamais eu d'assurance responsabilité et ils n'ont jamais été actionnés non plus. Les 12 premières années n'ont pas été faciles parce que pas un petit dollar ne leur a été offert en don. Alors, plusieurs des adultes fondateurs du centre ont dû travailler à l'extérieur pour permettre à la communauté de survivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un patient à cet institut? Eh bien, d'abord, patient veut dire avant tout personne. Donc, on demande au patient d'amener toute sa famille avec elle pour passer quelque temps dans la communauté. Patch Adams ou une autre personne du centre rencontre le patient pour une première entrevue qui dure en moyenne, imaginez, de 3 à 4 heures. Ce temps est consacré à écouter simplement l'histoire de la vie de la personne qui se trouve devant lui. Patch Adams a remarqué avec le temps que bien souvent, la moitié de ce temps est consacrée à la vie amoureuse. On parle des échecs, des déboires, mais aussi des grandes joies de l'amour. À l'Institut, on pose les vraies questions. Qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie? C'est quoi ta philosophie sur l'amour et comment la vis-tu au jour le jour? Une bonne partie des gens n'ont à peu près aucune idée quoi répondre quand on leur pose ces questions, lorsqu'on leur demande de parler de l'amour ou des gens qu'ils aiment. Et c'est encore plus difficile de répondre lorsqu'on leur demande s'ils aiment la vie. Alors voilà ce que Patch Adams et l'Institut ont décidé d'enseigner. Apprendre à aimer la vie. Aimer et découvrir la vie par les arts, par l'agriculture, par le service à la communauté, en s'occupant d'un chat, d'une plante ou d'une autre personne. On montre à ces gens que la joie existe en eux. C'est aussi un hôpital où tous les thérapeutes sont égaux, du musicothérapeute au médecin. C'est un lieu sans distance professionnelle. Patch Adams souhaite plutôt que chacun de ses patients devienne un ami. Il en a passé des heures à simplement serrer des gens en pleurs dans ses bras pour les consoler. Une seule et unique règle importante à l'Institut, pas de violence. Pour le reste, chaque personne peut être aussi folle qu'elle le désire. Patch Adams a même révélé qu'une nuit, il y a eu un patient atteint de troubles psychiatriques qui criait debout sur la table de la salle à dîner. Pas de problème, pour l'équipe de l'hôpital, ils l'ont décoré et ils ont chanté autour de lui. En 1998, on a tourné un film sur Patch Adams. Ce film est en fait une version très romancée de la vraie histoire, mais il a été créé dans le but d'obtenir les fonds nécessaires à la survie du centre et de la communauté. Patch Adams passe beaucoup de temps maintenant à voyager à travers le monde en compagnie d'autres clowns pour apporter des sourires, mais parfois aussi pour apporter de l'équipement médical où il y a un besoin. Il fait aussi plusieurs conférences pour partager sa vision de la médecine et il répond à chacune de ses correspondances à la main. La communauté de son côté accueille diverses activités sur ses terres de la Virginie. Patch Adams est un homme inspirant. Son enthousiasme et son amour sont contagieux et il porte dans tout son être le message que chacun a le pouvoir de guérir par de petits gestes ou simplement par le sourire. Pour le présent et le futur, il souhaite que nous marchions ensemble vers la souffrance de ce monde, que nous créions une épidémie d'amour et que le système soit basé sur la générosité et la compassion plutôt que sur l'argent et le pouvoir. Il souhaite également que la médecine soit synonyme d'amour pour les gens.
Un texte d'Emmanuel Denis Filion, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Maude Campeau.
L'acupuncture est une pratique thérapeutique millénaire qui s'inscrit parmi d'autres disciplines comme la nutrition, l'exercice physique, l'herbologie et la massothérapie dans ce que l'on nomme la médecine traditionnelle chinoise. Par l'insertion de minuscules aiguilles en des points spécifiques, on peut stimuler la capacité de notre organisme à se guérir lui-même. De plus en plus de théories et de découvertes modernes permettent d'expliquer pourquoi et comment une telle technique peut être efficace. Je vous invite donc à un exercice d'imagination pour vous aider à comprendre ce que l'acupuncture peut représenter dans notre quotidien. Imaginez ce qui arriverait si une compagnie pharmaceutique annonçait qu'elle vient de découvrir un médicament capable de traiter pratiquement n'importe quoi qui pourrait perturber la santé d'un individu. Une petite liste de ces troubles comprendrait notamment asthme, arthrite, indigestion, syndrome prémenstruel, sinusite, insomnie, fibromyalgie, bouffée de chaleur, hypertension artérielle, infertilité, constipation, effets secondaires de chimiothérapie, rhume, sans mentionner toute autre forme concevable de douleur. Imaginons non seulement que ce médicament a le pouvoir d'améliorer toutes ces conditions, mais qu'en plus, les effets secondaires sont positifs. Le dit médicament est largement reconnu pour ses propriétés de réduction du stress et d'amélioration de l'humeur. En fait, ces effets relaxants sont tels que certaines personnes apparemment en bonne santé en apprécient l'usage sur une base régulière, simplement pour le bien-être qu'ils procurent. Aucune addiction n'en découle et il n'y a aucune manière d'overdose. Imaginez le marché potentiel d'un tel médicament et comment il bousculerait nos idées préconçues sur la médecine. Maintenant, imaginez qu'il ne s'agit pas d'un médicament, mais d'une pratique tellement ancienne que personne ne peut en déposer de brevet ou se l'approprier d'aucune façon. Une pratique qui ne requiert presque rien en termes de matériel et qui ne coûte pratiquement rien à appliquer. Imaginez qu'on l'emploie de plus en plus pour faire des facelifts aux plus fortunés, parce qu'en plus de régulariser la tension artérielle, de soumettre les migraines, ça peut aussi faire diminuer les rides. Alors, ce qui devrait être un trésor immatériel de l'humanité pour tous, particulièrement en ces temps d'austérité, de système de santé engorgé, devient le privilège, le luxe d'une poignée de gens qui ont des assurances pour payer à leur place. Ne croyez-vous pas, et je m'adresse un peu aux quelques 600 acupuncteurs du Québec, qu'on peut faire quelque chose, qu'on a une responsabilité face aux gens qui souffrent et qui ne trouvent pas de solution? Qu'en est-il de la santé de notre profession? J'encourage toujours mes patients à se responsabiliser eux-mêmes face à leur propre santé. Bien manger, faire de l'exercice, veiller à prendre un repos suffisant, de qualité. Exercer un métier que l'on aime, prendre soin des gens que l'on aime. Il n'y a pas un médecin, pas un thérapeute d'aucune sorte qui pourra faire ça à votre place. Mais la santé, c'est aussi chercher les connaissances, l'énergie et surtout l'envie de prendre soin de soi-même. C'est là que votre acupuncteur peut vous être d'un soutien précieux.
Bertrand Loranger est acupuncteur et lance un projet d'acupuncture populaire à Montréal.
Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune.
Châtain.
Brune.
Brune.
Exécute des petits pas de danse en tutu.
Ah non. Non. En petit haut, Chantal Thomas.
Je prends. Elle est sur la terrasse d'une belle maison de bord de mer décorée style...
À côté sud.
Chaleureuse sans être tape à l'œil. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix...
Suave, mais authentique.
Je suis belle, n'est-ce pas?
Non, je suis belle, on dit ça.
Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question.
Je suis moi, tout simplement. Elle saisit un pot de Starlight, qu'elle entrouvre délicatement.
Ni trop vite, ni trop lentement.
Avant d'en déguster une cuillerée.
Elle ferme les yeux de plaisir en dégustant le produit. C'est bon, ça, hein?
Alors, entre parenthèses, plan de 2 secondes minimum.
Minimum, hein.
Puis, elle regarde la caméra dans les yeux.
Mon secret, c'est...
Starlight.
Yes! Yes! Excuse-moi.
Starlight.
Bon, alors là, tu fais la démo produit, là. Exquis fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps, y'a rien de meilleur.
Voilà.
Putain, ils vont adorer, hein, sans déconner.
Elle reprend.
Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant.
Puisque je vous ai tout dit.
rire espiègle.
Pas trop.
Backshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête.
C'est génial.
Chaque jour, on jette des trucs. Un paquet de trucs.
Si dans votre tas de choses à jeter, vous avez des RDD, acronyme pour résidus domestiques dangereux, ne les mettez pas à la poubelle, ni au lavabo, ou dans le parc derrière chez vous. Toutes les municipalités sont organisées pour en faire la collecte ou le traitement. Parmi ces produits, on retrouve entre autres les aérosols, que ce soit les crèmes à raser, nettoyants pour le four ou encore les peintures et solvants, les huiles usées, les batteries, les antigels, les insecticides, etc. Bien entendu, s'ils sont toxiques, corrosifs, explosifs ou inflammables, ils sont nocifs autant pour nous que pour la nature. Alors faites bien votre ménage. Ménagez notre nappe phréatique.
Eric a gagné le match.
J'ai mis 3 buts.
D'accord. C'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez arrêter, c'est fini tout ça. Vous pouvez rentrer chez vous, tout ça n'existe pas.
Regardez-vous, vous ne correspondez à rien. Vos looks, vos coiffures, vos dents blanches, tout ça.
Mais la tâche, là, du sale avec du propre autour, ça n'existe pas. Personne ne se salit comme ça, vous comprenez ?
Eric a gagné le match.
Regardez vos bouches, vous êtes danois, vous êtes doublé. Bon, vous n'êtes pas synchro. Moi, je suis synchronisé, j'ai un micro, par exemple. J'ai un micro, vous comprenez ?
Ah ! Eric a gagné le match.
J'ai mis 3 buts.
Quel match, putain de merde, quel match. Un match de quoi? De foot, de tennis, de waterpolo, de quoi?
Fou ce qu'il y a comme oiseau ici.
C'est quoi votre alimentation?
Une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance.
Non! Vous ne pouvez pas couper cette musique là, c'est très chiant. Écoutez,
voilà, vous marchez sur des croix. Ce jus d'orange est faux. Cette assiette est collée. Regardez, il y a un technicien qui est là, regardez. Il y a des caméras partout. Regardez. Allez-vous-en, partez.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une entrevue avec Alexandre Berkens, conseiller à la collaboration et partenariat patient à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.
Une capsule de Bertrand Loranger sur l'acupuncture comme médecine alternative.
Et Patch Adams, le médecin et le clown.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous seront offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com et cibl1015.com.
À venir dans la deuxième partie,
une description du système de santé en écotopie.
Une entrevue avec Nathalie Picard, qui s'implique avec la Société de recherche sur le cancer.
Et pour l'instant, voici quelques divagations sur la santé d'Annie Schneider.
Divagation corporelle. Si vous avez, comme moi, vu pleuvoir depuis 216 ans, ou moins que ça, si vous êtes sensible et éveillé à vos sens, pire, hypochondriaque, malade ou encore thérapeute, alors les affaires du corps vous tiennent à cœur, à raison ou à tort. Ce si sublime véhicule, car il l'est, c'est aussi celui de l'âme qui est enfermée, en même temps que l'esprit qui s'y est fait attraper. Notre structure physique est une merveille de construction achevée. Mais sentez-vous toute la place qu'elle prend lorsqu'elle est contrariée? Dans le plaisir, la souffrance ou simplement en vieillissant, on n'a plus le choix de l'écouter. Écho de notre âme en cheminement, aiguillon pour le changement, jardin de délices, harpe sublime ou véhicule gémissant, reflet du vécu accumulé, notre fragile manteau de chair est un formidable instrument polyvalent. Ce conglomérat de 500 000 milliards de cellules possède une intelligence intrinsèque, hyper synchronisée, telle une ruche interdépendante, un complexe très organisé dont on élègue trop souvent aux pseudo-spécialistes le soin de le réparer. Après le trio des remèdes des anciens Doc Corbeau, lavare, purgare, saignare, c'est maintenant au choix bistouri, chimio ou radio, et une morphine aux soins intensifs quand tout a foiré. À moins d'être très sage, ascète ou inconscient, rares sont ceux que l'usure de leur propre chair indiffère. Pourtant, trop peu se soucient à temps des besoins de cette sublime machine et sont tout étonnés lorsque la maladie les mine. Le corps est un fleuron de la création, couronnement du génie du grand architecte et du cul bien vécu, du cumulatif cellulaire de nos parents, quand, après un atterrissage réussi, surgit d'entre deux cuisses réouvertes, parti pour un parcours plus ou moins long et plaisant, sachant que tôt ou tard, nous finirons pour la plupart écrapoutis par nos abus, nos gènes limitants et les ravages du temps. Vous, jeune fou, êtes-vous conscient combien c'est important de se questionner dès maintenant sur ce qui se passe entre-temps, faisant le tri entre ce qui doit être éliminé et l'utile utilisable ? Car aux chiottes finissent en ruine les plus sublimes merveilles de la cuisine. Selon les lois de la biochimie et l'implacable génétique, bien au-delà des valeurs calorifiques, votre aspect physique est le reflet tangible de vos choix alimentaires, professionnels et psychiques. Bien sûr, dans ce pays de démesure, les aliments miracles et les suppléments sont légion. Mais quand le pire arrive, aucun vaccin, aucun remède, aucun thérapeute, ni même aucune herbe à elle seule, foi d'herboriste, pas même la vaillante ortie ou le lumineux millepertuis n'y suffiront, si ce n'est un bon état d'esprit et un changement de mode de vie, car les méthodes et panacées tout allées sont souvent des arnaques bien moussées. Comme dans la nature, rien ne vaut la biodiversité, car les monomanies sont mortelles, sinon très plates à vivre. Il faut bien entretenir son véhicule pour l'amour, avec grande conscience et quelques exercices, beaucoup d'eau et d'air pur, des céréales, des fibres et des légumes, sans produits de synthèse modifiés ou hydrogénés. Mais ça, vous le saviez. Car ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour de vrai, qu'on assimilera ou pas. Donc, à coup d'essais-erreurs, même avec quelques faux plis et des rondeurs, tentons de vivifier ce brave corps serviteur si docile jusqu'à dépasser ses propres limites profondes et périphériques et des fois bien s'envoyer en l'air en orbite dans notre univers. Mais même pour ça, c'est bon d'être en forme, n'est-ce pas? Ainsi, dans ce voyage au rivage mouvant, faut s'accepter tel qu'on est, déguster chaque instant avec délice le phare bien allumé et tenter de finir serein, sereine à l'ultime aéroport. Vous verrez bien quand vous vieillirez longtemps si vous y arrivez. Mourir, par contre, c'est garanti. Autant décoller avec le plein de vécu. En attendant, tâchons de bien s'aimer soi-même et l'autre aussi, notre body-body et notre vie bien choisie, si vite passée, surtout à la veille de trépasser. Vous l'aurez compris, aucune certitude à long terme, si ce n'est que votre corps est le reflet de votre auto-bienveillance, comme tout ce que vous aurez semé dans la mémoire des survivants et de l'immanence. Prenez soin, grand soin.
C'était un slam d'Annie Schneider, du nom de Divagation corporelle sur la santé.
C'est Nathalie Picard. Je suis participante pour la Société de recherche sur le cancer pour le Challenge SRC Machu Picchu édition 2015. Une levée de fonds de 9 000 $ pour un projet de trekking au Machu Picchu pour améliorer ma santé. Parce qu'à 25 ans, j'avais 275 livres, le choc de faire « Hey, 25 ans, je devrais faire attention, je devrais changer mes habitudes pour le futur, pour être sûr d'avoir une bonne santé ». Force de prendre le métro tous les jours pour aller travailler. Il y avait tout le temps les mêmes affiches, la société de recherche, avec le Machu Picchu, entre autres, comme expédition. Et ça a toujours été un endroit que j'ai voulu aller. Là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas jumeler un rêve avec un défi physique et mental de pouvoir apporter quelque chose. Quel signe précurseur au niveau du corps humain va faire que oui, c'est une maladie grave que la personne a? Et en même temps, qu'est-ce qui chimiquement dans le corps peut faire en sorte qu'on peut éviter ces maladies-là? La recherche, elle sert à ça aussi en même temps. Là. Il y a une page pour la Société de recherche Moi, c'est le challenge pour le Machu Picchu audition 2015. Il y a appuyé un participant et vous pouvez trouver mon nom, Nathalie Picard. Et ça fait en sorte que ça va dans les coffres de la société, mais ça a été ramassé en mon nom. Donc, ça m'aide en fait à terminer mon projet au niveau du financement pour que je puisse m'attarder au côté physique et voyage. Je me disais, je peux pas être exclue de la masse par rapport à cette maladie-là parce qu'on est toutes exposées à pouvoir en avoir un, même si on n'en veut pas. Et un mois après mon inscription à la société, on a su que ma mère était atteinte d'un cancer qui était décelable très difficilement. On m'a déjà dit, mais tu as toujours le choix. Je dis, oui, mais moi, j'ai pris le choix de vouloir aider ma mère à guérir et vouloir qu'elle vive le plus longtemps possible. C'est son désir, c'est le mien également. Je peux pas laisser ma mère toute seule dans une condition comme ça à la maison, alors qu'elle était incapable de se nourrir elle-même, de s'habiller elle-même. Donc, c'est de l'investissement 24 heures sur 24. C'est d'avoir un adulte, puis de le traiter quasiment comme un enfant rendu là, parce que... sauf qu'elle a son esprit d'adulte. Donc, c'est difficile pour elle, mais c'est difficile pour moi. Et c'est de rester positif malgré ça. Que même s'il y a du malheur, il y a quand même quelque chose de beau en arrière de ça. Je me suis rapprochée encore plus de ma mère. C'est une personne qui m'a apporté beaucoup en termes de confiance, d'inspiration aussi. Parce que j'ai vu que ma mère, c'est réellement une battante. Puis ça m'a donné encore plus le goût de faire la même chose pour ma propre vie. Ma mère est restée positive tout le long.
Écotopie, le nom donné à ce nouveau pays où règnent les idéaux écologiques les plus poussés. Ayant fait sécession des États-Unis dans les années 80, ce pays comprend les États de la côte ouest, soit le nord de la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Depuis les 20 dernières années, les gens de l'extérieur n'ont que des rumeurs sur ce qui se passe réellement en Écotopie, ayant coupé tous les ponts avec son ancien voisin. Voici les nouvelles de notre envoyé spécial en Écotopie, William Weston.
Hôpitaux et santé publique, la manière écotopienne. San Francisco, 15 juin. Un malencontreux accident m'a donné l'occasion d'apprécier personnellement les particularités du système hospitalier écotopien. Je viens de passer quelques jours au fond d'un lit à me remettre d'une mauvaise blessure. J'espère quitter l'hôpital demain, mais il faudra que je me ménage pendant quelques temps. Les hôpitaux écotopiens diffèrent surtout des nôtres par leur dimension. Bien que les soins médicaux donnés ici semblent se situer à un haut niveau de sophistication, l'ambiance est celle d'une petite polyclinique de province. Les radiologues, les chirurgiens et les anesthésistes sont tout aussi capables que chez nous, mais les bâtiments d'hôpital frappent par leur rusticité. Les murs ne sont pas carrelés et je n'ai pas retrouvé l'odeur de désinfectant qui, pour moi, s'associe toujours aux hôpitaux. Tout cependant semble propre et bien entretenu, et les docteurs, bien que ne correspondant pas à l'image du médecin que peut se faire un malade, sont actifs et ont l'air assez compétents. Il est un domaine, celui de la surveillance médicale, où les écotopiens ont suivi une voie complètement différente de celle que suivent nos hôpitaux les plus modernes. Ils ne font aucun usage des moyens de contrôle électronique qui permettent chez nous à un service central d'infirmières de surveiller un grand nombre de malades à la fois. D'après ce que j'ai compris, ils estiment que la présence de l'infirmière auprès de son malade est une chose essentielle. Le seul gadget électronique qu'ils utilisent est un petit émetteur radio grâce auquel chaque malade peut atteindre son infirmière où qu'elle se trouve sans déranger personne. Le personnel soignant reçoit une formation très poussée dans des spécialités qui sont inconnues du nôtre. Il pratique notamment avec beaucoup de compétences le massage auquel on attribue aussi un rôle important dans le reconditionnement physique et moral du malade. Le système d'assurance médicale qui protège les écotopiens du berceau à la tombe a complètement transformé la condition du médecin. Il faut dire qu'ils prennent en charge de nombreuses tâches qui, dans notre système à spécialisation très poussée, reviennent aux infirmiers. Inversement, ceux-ci assument des tâches que nos médecins se réservent d'ordinaire. J'ai remarqué que les conversations entre les docteurs, le personnel soignant et les malades étaient beaucoup plus détendues que dans nos hôpitaux. À l'évidence, les médecins n'ont plus l'apanage de l'autorité morale et scientifique. L'écotopie n'est pas obligée, comme nous le sommes, de faire venir des médecins de l'étranger, car aussitôt après l'indépendance, le gouvernement a fait en sorte de doubler la capacité de formation des facultés de médecine. Certaines spécialités ont en outre complètement disparu. Ainsi,
les bébés sont mis au monde à la maison avec l'aide de sages-femmes, sauf dans les cas difficiles. Il n'y a plus dans les hôpitaux ni maternité, ni obstétricien. Les services de soins intensifs ne sont pas aussi développés que dans nos hôpitaux. L'arsenal technologique de survie incroyablement élaboré dont bénéficient les Américains n'existe pas ici. Ce qui semble indiquer qu'une certaine sécheresse de cœur envers les malades parvenus à un stade critique. Ils préfèrent mourir chez eux, et les vieux écotopiens consacrent une bonne partie de leur temps et de leur énergie à se préparer à leur mort. On dit même que, comme les Amérindiens, ils peuvent choisir le jour de leur mort et, pour ainsi dire, décider de mourir. En tout état de cause, lorsqu'ils estiment leur temps venu, ils le laissent venir, puisant leur force dans leur conviction écologique, car c'est à leur tour d'être recyclés. En revanche, le gouvernement écotopien met très fortement l'accent sur la médecine préventive. Les dispensaires de quartier sont nombreux, tous les citoyens s'y font faire régulièrement des bilans de santé, et la proximité de ces centres fait qu'ils n'hésitent pas à y avoir recours pour des malaises apparemment bénins, mais susceptibles de se transformer en maladies graves. Aucun écotopien ne se trouve dans l'obligation de renoncer à des soins médicaux pour une question d'éloignement ou de coût. Les médecins écotopiens reçoivent tous une formation psychiatrique, étant entendu que psychologie et psychiatrie ne constituent plus deux domaines séparés. Mon médecin a pris en considération avec un égal intérêt mon état psychique et ma blessure. Si les rapports sociaux en écotopie, du fait que les relations de famille et de voisinage sont très intenses et très personnalisées, se caractérisent par un sentiment de confiance et de sécurité, il faut bien voir que c'est au prix d'une perte substantielle de liberté et d'autonomie. Un docteur m'a dit que les écotopiens avaient le sentiment de n'être jamais seuls. Certains trouvent du soulagement à partir pour des marches solitaires dans des régions inhabitées, où ils peuvent rester plusieurs semaines sans rencontrer âmes qui vivent. Somme toute, je doute que les écotopiens soient plus heureux que les Américains. À mon sens, chaque genre de vie a des côtés positifs et des côtés négatifs qui les contrebalancent. Les écotopiens seraient donc simplement heureux ou malheureux, autrement que nous.
À force de boire puis d'être assis, c'est Paul Gauguin qui parle. À force de boire puis d'être assis et puis de manger des cochonneries, on vient que le cul nous élargit et puis que le brain nous ramollit. À force d'être là puis de rien faire, la boîte à lunch nous traîne à terre. On devient de plus en plus cave.
Puis on se dit, ouais, mais c'est pas grave.
Puis c'est comme ça que petit à petit un gars vieillit, à peu une fille aussi. À force d'entendre les mêmes chansons, on vient qu'on use nos pantalons. On met des patchs, on change de spot, on se maquille tout le fond de culotte. Assis dans un club ou dans un bureau, tu finis par m'avoir plein le dos. Ça fait qu'après une couple d'années, t'es plus rien que bon qu'à aller te coucher. Puis c'est comme ça que petit à petit, un gars vieillit, puis une fille aussi. Assis dans un char ou dans un skidoo, ou bien assis un peu partout, dans un salon, devant une TV, dans une cuisine, devant un café. Assis ses genoux de son patron sur l'assurance califourchon. Assis carré sa coin des fesses, assis sa tête pendant grand-messe. Assis-toi là, donne d'autres en dessous au pauvre doorman qui reste debout. Assis-toi drette à côté de moi, puis check ma place, moi je veux me lever. Ben assis au bien-être social, assis en ligne à l'hôpital, assis sur ta sécurité, plus que t'en as, plus t'es collé. Assis ça à bord de ton bicycle, ou bien à cheval sur tes principes, assis dans tes belles salopettes, ou assis sur le bol de toilette, assis dans un coin de ton playboy, et va chez sur ton lazy boy, assis en bas, assis en haut, assis sur le bord d'un lavabo, assis devant le gouvernement, avec des numéros sur ton banc, assis avec un aiguille dans le bras, comme un pick-up qui marche même pas. T'es rencontré simplement. Assis dans un parc, assis aux vues, assis dans un marche, assis dans la rue. Assis-toi droite, assis-toi croche, dépendant de combien t'as dans les poches. Pis c'est comme ça que petit à petit un gars vieillit, à peine une fille aussi, assis. Encore assis pour étudier, encore assis pour travailler, encore assis pour te reposer, encore assis pour voyager. Assis souvent, assis longtemps, assis dûment, assis tout le temps. Assis, c'est progrès de la technique, tu finis sa chaise électrique. Assis, assis beaucoup.
La respiration, fonction primordiale chez l'être vivant, ressource première de vitalité et d'énergie, entame et soutient notre vie sur Terre. Le souffle fournit de façon continuelle l'oxygène pour nourrir les cellules. Il sert également à évacuer les gaz carboniques tout en contribuant au processus d'élimination en oxydant les déchets. L'appareil respiratoire est un vaste réseau qui ouvre la porte sur la purification, puisqu'il active tout le métabolisme, tant physiologique qu'énergétique. D'ailleurs, saviez-vous que notre capacité respiratoire est d'environ 5 litres par inspiration? Or, l'humain moyen n'en utilise qu'un demi-litre. Cela représente seulement un dixième de ce qui lui est accessible. De plus, lors de conditions normales, nos poumons se remplissent d'air de 16 à 18 fois par minute. Transportons-nous au cerveau, qui à lui seul accapare plus de 30 % de l'oxygène respiré. Imaginez les facultés accrues qui s'en résulteraient en augmentant régulièrement la quantité d'air par la respiration profonde. C'est pourquoi le rythme respiratoire représente un pont entre le conscient et l'inconscient. La respiration d'une personne dont l'attention est complètement absorbée par un raisonnement poussé ou la concentration sur un travail devient automatiquement très lente. En revanche, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la colère, la haine, ainsi que l'omniprésence du stress génèrent des souffles rapides ou inégaux. Conserver ces états émotionnels et laisser le réflexe de la respiration en permanence sur le pilote automatique peut entraîner à long terme des dommages physiques tels que des maladies, des problèmes de comportement ou des symptômes incommodants tels que des tics nerveux. Heureusement, nous pouvons aider à réduire les effets néfastes du stress et des émotions négatives en contrôlant notre respiration. Des animaux comme la tortue ou l'éléphant ont une longévité supérieure à l'être humain et aux autres mammifères. La principale justification réside dans leur rythme respiratoire flegmatique. Or, l'utilisation de notre souffle est donc intimement reliée à la longévité. Ajouter quotidiennement une pratique respiratoire lente et bien ressentie active le rajeunissement et la revitalisation de l'organisme. Il contribue à la détente, à la relaxation, au bien-être et dispense le petit hamster qui tourne sans cesse dans notre tête. Le souffle pratiqué de manière lucide est comparable au sommeil profond. Il amène le calme lors de conflits ou dans une crise de panique, stimule les idées créatrices et permet de résoudre des problèmes. Les voies nasales possèdent un système de régulateurs thermiques et de vibrisses qui filtrent l'air avant de se rendre dans les poumons. Voilà pourquoi il est important de respirer par le nez plutôt que par la bouche. Faites pénétrer l'air en gonflant les abdominaux tout en poussant l'expansion de l'inspiration jusqu'aux muscles dorsaux. Puis, ouvrez les côtes latérales de la cage thoracique pour faciliter le travail des muscles du ventre. Ceux-ci sous-tendront le diaphragme et libéreront un plus grand espace pour les poumons. Cela a pour but de développer et fortifier les bronches et les alvéoles, ce qui n'est pas accessible par la respiration thoracique. Intégrer la respiration lucide à plusieurs reprises au cours de la journée améliore la perception de vous-même par rapport à la vie et au monde qui vous entoure. Vous apprécierez davantage l'être qui vous habite. Vous vous sentirez plus libre et aurez plus d'énergie, d'où la sensation d'être plus vivant. En tant que massothérapeute, j'ai intégré la respiration consciente dans mon travail et depuis, je suis beaucoup moins fatiguée à la fin de mes journées. L'utilisation de la respiration consciente est donc un puissant outil de fusionnement au bonheur et à la connexion à l'essentiel. Elle ramène l'ordre dans les émotions et stimule une inspiration nouvelle, apportant concentration et régénération.
Un texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration de Sophie Claudia Ouellette.
Cher amour, toi qui me hantes, Toi qui m'as conquis dès le premier instant où je t'ai connu. Toi qui m'obsède, me tente, me fait languir. Toi qui me fais vivre des sensations charnelles, des émotions incontrôlables. Dès que j'esquisse ne serait-ce que l'ombre de ta présence, je te désire tellement et je te vois partout. Tu es partout où je pose mon regard, dans les endroits publics, dans les fêtes. Je te vois dans mon déjeuner du matin, dans mes pauses collations de l'après-midi, en travaillant et même le soir. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Quand je m'ennuie, quand je suis heureuse, en peine, en joie, fatiguée, énergisée, toujours tu me titilles, toujours j'ai le goût de toi. Mais voilà, justement que je me rends compte que j'en suis devenue dépendante. Je ne peux plus me passer de toi. Quand tu n'es pas là, je me sens fatiguée, amorphe, on dirait que je n'ai plus le goût à rien. Ou bien je deviens impatiente, triste et en colère, même dépressive. Et pourtant, dès que tu es en moi, je monte au 7e ciel. Je ressens une telle joie, je peux rire pendant des heures. Et dès que j'essaie de te dire non, tu me fais tes beaux yeux et à chaque fois, je suis incapable de résister. L'envie est trop forte. Justement, j'en ai assez de ces crises émotives. J'en ai assez de ne pas pouvoir vivre sans toi. De ne pouvoir résister à ton charme enjôleur. Si je continue à te donner mon amour, je vais me détruire. Je vais détruire ma santé physique, mentale, émotionnelle. Je me vois déjà devenir ton esclave, comme toutes tes autres amantes. Ah, je sais, tu vas tout faire pour me tenter. De toute façon, tu l'as toujours fait. Depuis ma plus tendre enfance, tu te faisais éclatant, coloré. Tu revêtais tes plus beaux atours pour me charmer. Mais c'est décidé. Je ne resterai pas hypochondriaque sans le savoir, comme tant d'autres âmes américaines et terriennes traitées de maniaco-dépressives, névrosées, anxieuses, irritables, insomniaques. Ah, mon cher amant secret, comme c'est douloureux les départs. Mais je te laisse. J'ai décidé de guérir. Voilà. Adieu, sucre.
Guillaume Lambe, c'est qui ça, Guillaume Lambe? Lui, puis son maudit monologue en début d'émission. Tiens, moi aussi je suis capable de monologuer. Puis en plus, les deux mains dans le bac à vaisselle. Gabin ça. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Je regarde l'amoncellement de ce qui est en bas, et je me dis que ça devrait logiquement être comme ce qui est en haut. Laissez encore tremper. De regard engourdi, je cherche à tâtons la tasse enfouie, sous un amoncellement non-euclidien de vaisselle disparate. Du sel au propre, j'amorce la transmutation. Musique maestro. Pour faire les miracles d'une seule chose, point de pause. Grande œuvre au propre, chiffon guenille, musique sifflée. La faim est son père, la satiété sa mère. L'arôme l'a portée en son sein, compost sera sa nourrice. Enfin, ma tasse fétiche, ma cafetière glougloutant tout doucement. Chaude est l'arôme, la mère s'en libère. Avec ordre et méthode, du verre subtil au grossier chaudron, les couverts tu sépareras. Harmonie de ma cuisine, je t'invoque. Ô vaisselle philosophale, je te suis gré de m'avoir si bien concocté. L'essence si précieuse de ce repas longuement mijoté. Ô grand cuisinier de l'univers, libère-nous des plats surgelés, protège-nous du lave-vaisselle industriel. Et surtout, oh que oui, surtout, éloigne-moi de la vaisselle jetable. Les composants magiques, lingettes scrubby, laine d'acier savon, bicarbonate vinaigre, architecture subtile, coupe, flûte, gobelet, mazagran, verre, tasse, ustensile, chopine, carafe, petit bol, soupière, saladier, écuelle, petite assiette, Tupperware, Pyrex, chaudron, poêlon, nul s'est découvert. Ouch! Couteau coupant. Tout s'empile sur mon comptoir, spiraloïde. Eau grise et immondice, enfin, voilà la fin. Nettoyage des surfaces, ah, voilà mon idée.
la vaisselle philosophale. Amen.
Un texte de Philippe Laramé, librement inspiré des tables d'Émeraude, d'Hermès, Trismégis. C'est ce qui conclut ce 9e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com et le CIBL1015.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous voulez supporter Nathalie dans son ascension du Machu Picchu et sa mère dans son combat contre le cancer, rendez-vous sur notre site internet.
Si vous aussi vous avez une relation plus ou moins saine avec les médias sociaux, ou si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Aurélie Suberchicot, Sophie Clausier-Wallet, Bertrand Loranger, Annie Schneider, Maude Campo, Jean-François Roy et Marie-Claude Journeau.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe. Santé, Phil!
Santé, man! On refait le chin-chin.
C'est comme ça.